Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain. Bonjour Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Jean-François Ladjé.
Bonjour Sébastien, bonjour
et
à tous.
Et nous n'avions pas avec vous Jean-François épuisé l'histoire, l'évocation de Notre-Dame de la Dorade, cette basilique toulousaine qui a connu bien des vicissitudes. Alors on va continuer avec Notre-Dame de la Dorade, qui n'a pas toujours été Notre-Dame.
Ah ah. Aline, je te laisse.
Je te laisse.
D'accord.
C'est toi qui as les éléments. Moi, je vais t'écouter.
Oui, alors j'ai des éléments. Alors, encore une fois, c'est toujours des lectures. Alors, beaucoup de travaux, hein, beaucoup de rapports, beaucoup d'ouvrages sur ce monument très, très, très important à Toulouse.
Unique dans l'espace français actuel.
Et unique dans l'espace français actuel, oui. Oui, puisqu'en fait, il faut aller à Ravenne ou en Italie pour trouver ces mosaïques sur fond d'or. Hein. On a parlé l'autre jour de l'icône, du programme iconographique et puis des travaux de cette chercheuse italienne, là, assez récent, Carla Faliomini, de l'Université de Pérouse, qui nous permet de décrypter aujourd'hui le fait que, de confirmer que c'est bien un édifice, ou en tous les cas un décor construit par les Visigoths. Mais dans la même veine, il semblerait que la première dédicace ne soit pas à Sainte Marie, ne soit pas à la Vierge, mais soit au Sauveur, Christ. Donc on est vraiment sans doute dans... on peut faire le parallèle aussi avec Saint Sauveur in Cora, etc., à Constantinople, enfin toutes ces églises orientales dédiées au Sauveur. Et c'est probablement, enfin, là encore une fois, je ne fais que redire ce que je lis, ce seraient les Francs qui, après la défaite de Vouillé, hein, Clovis bat les Visigoths, on en verra ça un peu plus tard dans les prochaines séances, mais quand les Francs donc, sont les nouveaux maîtres de Toulouse, ce seraient eux qui auraient...
transférer la dévotion, changer la dévotion.
Exactement, Sébastien, changer la dévotion.
Et mais donc mais une pas dévotion, la décoration.
Mais pas la décoration. Oui. Mais pas la décoration, puisque voilà, ce qu'on a vu l'autre jour, c'est que finalement, le décor, qu'il soit nicéen ou arien, à l'époque, ce sont les mêmes patriarches, les mêmes apôtres, c'est la même statuaire, c'est la même iconographie, le programme iconographique est le même. Mais la dédicace change. Bon, après, comme... On le sait, les bénédictins feront évoluer le bâtiment, ils transformeront, mais ils conserveront donc l'abside visigothique avec ses mosaïques et tout son décor. Et en fait, c'est au 18e, là, enfin, j'avais dit que ce bâtiment était debout jusqu'en 1763 de mémoire, hein, la reconstruction, on démolit, on reconstruit. Et là, du fait du programme des quais, puisque l'église est reconstruite en même temps que sont construits les quais de la Garonne, hein, que l'on connaît pour protéger la ville des inondations. Alors probablement que les vestiges de l'ancien bâtiment servent au terrassement. Donc comme dit Aline, tout ça part à la benne. Donc il faudrait peut-être fouiller à 15 mètres de profondeur pour espérer trouver quelques morceaux de tesselle.
Tu parles des terrassements des quais.
Des terrassements des quais, oui, tout à fait.
Mais même de la démolition, oui. les démolisseurs ne vont jamais jusqu'au fond. Oui. On arrive toujours à trouver, mais enfin...
Oui, on peut trouver.
C'est illusoire de penser qu'on peut avoir des fouilles.
Bon.
Elle vient d'être
très bien restaurée. Là, fin,
oui, c'est parfait.
Axel Le Tellier a fait un travail magnifique qui fait qu'on voit la dorade dans sa version du 18e et du 19e siècle. Mais ce qu'il faut noter, c'est que dans la reconstruction, l'axe de la nef a changé. C'est-à-dire que l'église n'est pas exactement à son emplacement initial. Il y a un désaxement qui fait que le chœur visigoth, puis roman, il se trouve à l'emplacement du transept sud de l'église actuelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on visite
là où
l'édifice,
se trouve la statue de la Vierge.
L'édifice, exactement, oui. L'édifice précédent était un peu, on va dire, dans la diagonale, et l'abside se trouvait là où est la Vierge Noire, hein, la Vierge de Sainte-Marie de la Dorade. Donc ce qui est extraordinaire, effectivement, Sébastien, c'est la permanence quand même du culte, qui est que ce transept Et cette vierge est à peu près à l'emplacement quand même de l'abside du 5e siècle.
Alors pour revenir aux Visigoths, on est toujours chez les Visigoths, on est avant la bataille de Rouillé quand même.
Revenons aux Visigoths.
Revenons aux Visigoths.
Le mérite.
Est-ce qu'on peut dire que le thème du décor qui a été choisi pour la dorade par les Visigoths était un thème qui a été retenu dans l'équilibrage des chrétiens nicéens, des chrétiens ariens, et que rien dans ce décor ne pouvait heurter les nicéens. Est-ce que ce décor, c'est un décor plutôt arien?
C'est un décor qui est chrétien, en fait.
Donc, oui, c'est, des chrétiens. Oui,
non,
oui.
Mais quand vous dites chrétien, c'est-à-dire qu'en fait, qu'il soit arien ou nicéen, c'est le même. Je reviens toujours sur cette question du
concile. On n'a pas les mêmes on a les mêmes représentations.
Parce qu'en fait, on a les mêmes représentations. Très et bien. On a en fait, c'est pour ça que j'avais insisté un petit peu sur ce point de dogme, alors que ce n'est pas ma spécialité, mais je crois quand même avoir compris qu'entre les Ariens et les Nicéens, même si ça a fait beaucoup couler beaucoup d'encre et même de sang, hein, puisque les Ariens étaient hérétiques et qu'ils étaient pourchassés et quelquefois massacrés, en fait, c'est la question du rapport dans la Trinité entre le Père et le Fils. Mmh. Hein, vous vous rappelez, donc, est-ce que le Père et le Fils sont de même nature? Pour les Nicéens, c'est le cas. Voilà. Ou est-ce que, comme le pensait Arius, hein, l'évêque qui a fondé le rite arien, le Père précède le Fils, ils sont d'une nature semblable mais légèrement différente, qui fait que c'est le Père crée le Fils. C'est un point de dogme qui... Voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, les saints sont les mêmes, les apôtres sont les mêmes. Voilà, c'est-à-dire que le décor, du coup, les programmes iconographiques sont les mêmes. Du coup, les Francs, quand ils arrivent en 507, ils changent le nom. Ils disent, bon, ok, c'est plus le Sauveur, c'est la Vierge. Mais ils ne modifient pas le décor. Et par rapport à ce que tu voulais dire,
l'arianisme a bon dos. Parce que Clovis, et il fait ce que fera Charlemagne plus tard, c'est-à-dire que c'est le bras armé.
Bien sûr,
de l'Église.
Mais bien sûr.
Donc, le bon motif, c'est « je vais chasser les Ariens ».
Bien sûr.
Bon, c'est complètement politique.
Mais bien évidemment.
Dans une ville où tout se passe bien.
Mais c'est ça, c'est la raison pour laquelle probablement Théodoric Ier, dont le premier roi, a l'intelligence politique de jouer la conciliation. C'est ce que tu disais il y a quelques instants, Aline. C'est-à-dire, lui, ce qu'il veut, c'est la paix.
Il veut pas de
vague. La bonne entente entre les Gallo-Romains et son peuple Visigoth. On l'avait dit, hein, Visigoth qui parle, en tous les cas les élites toulousaines qui parlent latin, et tout ce qu'ils veulent, c'est devenir citoyen romain.
Et alors moi, il y a un autre point, justement, pour rejoindre ce que tu dis à l'instant. On a quand même légiféré. Euric le premier, je crois, me souvenir, qui a écrit un premier texte, hein, qui peut-être, en y réfléchissant, a peut-être amené des éléments de friction, parce que c'est un premier texte intéressant, c'est un texte qui va mêler le droit romain aux coutumes locales. Et est-ce que les Romains n'ont pas été heurtés de voir les coutumes barbares prendre place dans la belle construction du droit romain?
Aline, oui, moi je revois assez ton hypothèse, parce qu'il faut s'attacher un instant, rapidement, à la personnalité d'Euric. Là, les belles années, on va dire, de Théodoric Ier, c'est-à-dire qu'il cherche justement l'apaisement, l'équilibre, avec Euric, c'est terminé. Alors déjà, le contexte géopolitique change, c'est-à-dire que l'Empire romain est de plus en plus affaibli. Et l'option qu'il prend, c'est plutôt que d'aider les Romains, il se les met à dos, en étant, et du coup, la religion là, devient peut-être un prétexte. Alors, est-ce que c'était vraiment un arien très convaincu et très intolérant, ou est-ce que c'était du calcul politique? On n'en sait rien, on n'est pas dans sa tête.
Moi, je crois que c'était Clovis qui a utilisé, vraiment.
Mais en tous les cas, Euric, par exemple, a chassé des évêques nicéens dans son royaume. Ah. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'évêques à Toulouse. C'était pas très habile, puisque... chassant et persécutant les chrétiens, les évêques niciens, alors pas à Toulouse, puisque comme vous le savez, il n'y en avait pas.
Plus, l'évêque, oui.
Mais dans d'autres villes. Et c'était le meilleur moyen de se mettre à dos la population gallo-romaine. Ce qui probablement, enfin, quand on sait ce qui s'est passé avec Clovis, donc, enfin, quand nous, on a la chance de pouvoir savoir la fin, donc on sait comment ça se termine pour les Visigoths, donc mal. Donc on s'est dit que Ulric a fait un mauvais choix. Et quand tu évoques son premier travail juridique, je pense que tu as raison. C'est-à-dire qu'à la fois, l'arme religieuse est un prétexte. Donc je suis un arien convaincu, je persécute les Nicéens. Quand la majorité de la population est gallo-romaine nicéenne, c'est
Mais
pas
oui,
une bonne
ça
idée.
Marche pas.
Hein, ça marche pas. Et ça marche tellement pas qu'un peu plus tard, donc Alaric II, essayer de rétro-pédaler, essayer de...
Il refait une loi.
Voilà, et refait une loi, donc, connue...
Bréviaire d'Alaric.
Exactement, oui. Ouais. Ce fameux bréviaire d'Alaric qui marquera très fortement les siècles suivants en termes de droit.
Ouais.
Là, à la limite, tu...
C'est un pays de droit romain.
Oui, voilà, tu connais mieux cette situation juridique que moi, entre le nord et le sud. Hein, et ce droit, donc, c'est le bréviaire d'Alaric... Et on peut directement, je dirais, aller à la conclusion, c'est que...
Alaric II, c'est fini.
Alaric II, c'est trop tard. Quand il essaie de rétablir la situation, c'est trop tard. Et puis Clovis, donc au nord de la Gaule, donc avec les Francs, gagne du terrain. Il a l'intelligence politique, justement, de se mettre les Gallo-Romains dans la poche, y compris sur le terrain religieux. Hein. Bon, on connaît l'épisode du baptême,
oui,
bon,
oui.
etc. Enfin, peu importe. Mais en tous les cas, c'est une intelligence politique qui fait qu'à l'arrivée, c'est lui qui gagne. Et donc, on conclura en 507...
Ils vont partir de Toulouse, mais ils vont aller ailleurs.
Oui. Sébastien, a-t-on le temps d'évoquer cette nouvelle étape ou...
Une prochaine fois, nous évoquerons. Nous serons donc en quelle année?
En 507.
En 507, avec
oui.
le départ oui, des Visigoths.
En 508, ils sont
la bataille de Vouillé.
Voilà.
Clovis gagne, Alaric II est tué. Et on évoquera la prochaine fois, du coup, l'installation des Francs.
Eh oui.
Hein, et donc, ce sera une autre page d'histoire pour Toulouse. Et là, on retrouvera les changements dans le paysage urbain, ville, etc.
Oui, oui.
Ah,
très bien.
Oui, oui.
Merci beaucoup pour cette chronique et
bonne
semaine
à tous. Merci à Jean-François.
Merci à Jean-François.
Il nous a passionnés.
Mais avec grand plaisir.